Qui êtes-vous ?
Je suis Waterproof.
Où vivez-vous ?
Je vis à Igloo, dans l'Antarctique. Mais c'est pas toujours drôle. Mais souvent, quand même.
Que faites-vous dans la vie ?
Blogueur blagueur, podcasteur inaudible, incompétent notoire, je prends le temps de percuter la congruence moratoire des épisodes infinis de la convivialité émergente pour ensuite en tirer les conséquences qui s'imposent. Ça prend pas mal de temps.
Comment êtes-vous venu au podcasting ?
Insensiblement, en me rendant compte que c'était faisable, souhaitable, et tennis de table. Irrésistiblement, en écoutant Bertrand Lenôtre ou Pierre Journel. Effrontément, en constatant que je pouvais être au moins aussi mauvais que beaucoup d'autres. Décomplexément, en choisissant la voie royale de l'incompétence.
Comment définiriez-vous votre podcast ?
Si vous ne cherchez rien, c'est ici que vous l'entendrez.
À quoi vous sert-il ?
Il me tient chaud l'hiver, il me rafraîchit l'été, il me titille agréablement la fibre du zygomatique gauche. Il entretient ma schizophrénie naturelle beaucoup plus économiquement qu'une psychanalyse. Il me fait rire.
Que vous a apporté le podcasting ?
La fortune, les filles, la célébrité, une maison de campagne, un compte en Suisse, des tas de copains, des relations sexuelles, des téléphones portables gratuits, des vignettes Panini en double et un raton laveur. Enfin, je déconne, hein. Pour le raton laveur, en tout cas.
Avez-vous une idée de qui sont vos auditeurs ?
Pas vraiment, mais je les plains quand même.
Quel est le dernier commentaire ? Qui vous a fait chaud au cœur ?
Walter, tu es comme un fantôme sans aile, tu n'es plus là, mais tu es toujours là, et en plus, je pleure quand tu chantes, c'est pas drôle ça, Walter, c'est pas bien de faire introduire de la pleuritude chez tes poditeurs qui doivent s'abonner avec iTunes ou avec ce qu'ils peuvent pour suivre l'inaudible dans où ils peuvent, et toc.
Quel est le dernier commentaire ? Qui vous a énervé ?
Commentaire 0.
Quels sont vos projets à venir ?
Je voudrais élaborer les conjectures métampsychiques de tout un chacun, en extraire la complexitude externe, la transcoder dans un format cohérent, en tenant compte de la verticalité intrinsèque à ces segments, bien sûr, puis la reproduire en botte de 12, afin de la faire entrer dans un volume de l'inaudible, et 5 de pastis.
À quoi ressemble votre matériel d'enregistrement ?
À rien, je n'ose le décrire. Disons que tout tient dans un iMac G5, old school, équipé d'un GarageBand, auquel est relié un micro-casque USB Plantronix Tamer DSP500, possédant lui-même une oreille droite et une oreille gauche, et puis voilà.
Quelles sont vos radios, web radio ou émissions de radio de référence ?
J'ai cessé d'écouter la radio vers 1912, à la mort de Pierre Desproges.
Dernier livre ouvert ?
La vie et l'œuvre de Sainte-Beuve, par Nadine Mock. Franchement, j'ai eu du mal à le refermer.
Le top de votre playlist ?
Embryon desséché d'Holoturie, d'Edryophtalma et de Podophtalma, d'Eric Satie.
Merci, Monsieur Proof.
Implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Bonjour, je suis Walter Proof, et vous écoutez l'inaudible, le podcast de l'illisible. Une introduction un peu longue aujourd'hui, je m'en excuse. C'était l'interview que j'ai donnée récemment à Podcast Magazine, le magazine du podcast, un nouveau site qui parle podcast. On le trouve en tapotant http://www.podcastmagazine.fr et on se régale après en découvrant plein de choses intéressantes sur le podcast. Bon, cela dit, on arrête avec la page copinage et on entre dans le vif du sujet. Alors, au sommaire de ce numéro 13, qui porte bonheur, les recettes de l'inaudible avec Magali Nassé, le chef dont personne ne parle en ce moment, sauf nous. Un questionnement du professeur Lao Tête d'âne, défense et illustration de la polysémiologie vexatoire. Une rencontre de Lulu avec Nadine Mock pour son livre La vie et l'œuvre de Sainte-Beuve, Lulu l'a lu. Un kikiadi, de la musique, des fulgurances et tout un tas de superficialités superflues. Alors, attachez vos carambars, dépouillez les oligarchies de vos rectitudes transversales, c'est parti pour de nouvelles extravagances romanesques. Une nouvelle rubrique dans l'inaudible, dans le cadre de notre recherche effrénée d'une audience toujours plus importante. Puisqu'il semble que le public apprécie tout particulièrement les podcasts consacrés à la photo, nous avons décidé de vous offrir des recettes de cuisine. Ah, sympa, non ? Cuisiner dans la joie et la bonne humeur avec l'inaudible. Aujourd'hui, le pingouin en croûte de cétacé, par Magali Nassé, du restaurant Le Petit Nabab.
Bonjour. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je vous propose une recette particulièrement savoureuse, mais extrêmement délicate à réaliser, surtout quand on a deux mains gauches comme moi. C'est la recette du pingouin en croûte de cétacé. C'est bon les pingouins. Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est la saison des moules. Ah oui, c'est au printemps que les moules viennent se reproduire dans les alpages, après avoir remonté le courant et pris l'embranchement à gauche en sortant du périphérique. À la porte de la chapelle, elles prennent le RER, c'est pour ça qu'il y a des embouteillages en cette période. Mais revenons à nos moutons. Prenez deux beaux pingouins, bien doudus, bien frais. La fraîcheur du pingouin, c'est très important, on ne le dira jamais assez. Et il y a des indices qui ne trompent pas. Quand le pingouin est frais, il a la truffe humide. C'est pas moi qui le dis, c'est le célèbre chef Paul Grocuse, le créateur de la mortadelle de phoque en gelée de banane à la graisse d'oie. C'est bon ça. Alors moi, j'utilise toujours du pingouin surgelé, en provenance d'Antarctique. Waouh, comme ça, je suis sûr de la qualité. Alors, on y va, et alors, on y va. Alors, je rappelle les ingrédients. D'autant que je ne les ai pas encore dit. Alors, je les rappelle quand même. Deux beaux pingouins surgelés, bien dodus, de 50 kg chacun environ. 3 litres de moules, des moules à gaufres de préférence. Un beau bouquet de violettes. Violettes. Mais pas trop, surtout, pas trop violettes. Une cuillère à soupe de... Comment on dit déjà ? Une cuillère à soupe de soupe. Oui, c'est ça, voilà. Une cuillère à soupe de soupe. Et une cuillère à café de persil. Voilà, vous avez tout compris. Bande d'andouilles. Bon, alors, sel, poivre et gousse d'ail à volonté. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors maintenant, et bien maintenant, on y va. Alors attention, et maintenant, 3, 2, 1, 0, top, on y va. Plongez le bouquet de violettes dans un litre d'eau tiède portée à ébullition. À qui ? À ébullition, j'ai dit, je ne le répéterai pas. Rajoutez le sel, le poivre et les haricots. Hein ? Quoi ? Quels haricots ? Où qui a vu des haricots, lui ? Bon, alors d'accord, les haricots, d'accord. Les haricots. Pendant que tout ça mijote, un bon quart d'heure, débitez les pingouins en tranches. À la scie sauteuse. C'est plus facile qu'à la fourchette de toute façon, croyez-moi. Faites préchauffer le four 10 minutes, thermostat 14-18 ou 39-45 selon vos préférences, ça se discute pas. Hein. Disposez les moules à gaufres dans un plat plat. Le plat plat te fera l'affaire, à condition qu'il soit plat, bien entendu. C'est l'essentiel, le plat plat. Alors attention, c'est là que ça se complique. Suivez bien. Dans votre mixeur bivalve à chronomètre intégré, versez les haricots à la violette et moulinez le tout jusqu'à une pâte bien dure. Ensuite, prenez. Secouez bien les. Attention. Thank you. coin un croûte de cétacé que vous dégusterez accompagné d'un petit beaujolais de chèvre de derrière les fagots ou d'une bonne liqueur de térébenthine pas trop tiède, et je vous dis que ça, moi, je me régale déjà. À la santé de qui ? De Magali Nassé.
Retrouvez Magali Nassé tous les soirs dans les cuisines du Petit Nabab, 3 rue de la Faisanderie Faisandée, à Pétouchka-sur-Gibolin, dans les Côtes-du-Rhône. Le professeur Lao Tet Dan s'est souvent attiré les foudres de la bien-pensance internationale en osant se pencher sur des sujets aussi audacieux qu'incongrus. Cette fois-ci, il entreprend de dépasser de nouvelles bornes, les reculant à des limites jamais atteintes à ce jour et nous laissant loin derrière lui, tels des coureurs aux semelles de plomb, irrémédiablement distancés sur la piste cendrée de la pensée moderne, condamnés à le voir s'enfuir au loin sans le moindre espoir de le rattraper un jour. Si la philosophie contemporaine était un 1500 mètres, Lao Tet Dan en serait le Hicham El Guerrouj et nous, de pauvres schtroumpfs. La polysémiologie vexatoire a souvent été dépréciée et rarement estimée à sa juste valeur. Dès l'Antiquité, les penseurs l'ont méprisée. Témoin cette formule aussi tranchante que péremptoire de Platon dans la sixième tétralogie de ses célèbres dialogues, Parménide. Donc, si chez le dieu est la maîtrise elle-même la plus exacte et la science elle-même la plus exacte, cette maîtrise de cela ne sera jamais maître de nous, pas plus que cette science ne nous connaîtra, nous ou quoi que ce soit d'autre, des êtres de chez nous, mais pareillement nous, donc, nous ne les commandons pas par le commandement de chez nous, et nous ne connaissons rien du Dieu par notre polysémiologie vexatoire, et ceux-là, à leur tour, pour la même raison, ne sont pas maîtres de nous et ne connaissent pas les affaires humaines, étant Dieu. Et pourtant, Platon ne peut pas être considéré comme le plus rétrograde des philosophes. Et que dire ? Que dire de Friedrich Nietzsche, qui, sollicité par un journaliste mal intentionné qui voulait connaître son opinion sur ce sujet ô combien polémique, répondait d'une manière aussi expéditive que désinvolte « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Déclaration d'autant plus incroyable que bien que publiée à l'époque dans Voilou, la célèbre gazette de la fin du XIXe siècle, elle ne fut suivie d'aucune poursuite judiciaire ni d'aucune action de la part des héritiers et ayants droit de Dieu. Dernier exemple, et non des moindres, Blaise Pascal, qui n'hésite pas à écrire, dans un des passages les plus méconnus de ses pensées dans l'édition de 1671, l'homme estant déchu de son état naturel, il n'y a rien à quoi il n'est esté capable de se porter. Depuis qu'il a perdu la vraie polysémiologie vexatoire, tout également peut lui paraître tel jusqu'à sa destruction propre, toute contrainte qu'elle est à la raison et à la nature tout ensemble. Incroyable. Gonflez le mec. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, il faut bien se rendre à cette évidence, la polysémiologie vexatoire est un sujet trop sensible pour être confié à des philosophes. C'est pourquoi je ne m'en préoccuperai pas davantage. La disparition des dernières barrières antichromatiques est-elle le prélude à l'extinction totale de la race des primatoscaphes existentiels ? Bien malin, qui pourrait le dire ? Et si on s'intéressait un peu au qui a dit, oui, voilà, ça c'est une bonne idée. Dans le dernier volume de l'Inaudible, je vous avais fait écouter ceci.
Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley.
Oh, moi j'adore. Oui, c'était un extrait du film des As. Zucker, Abrams et Zucker, sorti en 1980 et intitulé Airport. En français, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Limite chef-d'œuvre quand même, même si ça s'est gâté avec les suites. On pouvait y entendre d'autres dialogues essentiels comme
We have clearance, Clarence. Roger, Roger. What's our vector, Victor?
Ou encore
Shit, man. That hunky muffin mess, my old lady. Got to be running coal upside down his head, you know?
Hey, home, I can dig it.
Magnifique. Bon, comme d'habitude, vous avez été très nombreux à jouer sur le blog de l'inaudible. Je compte un, voilà. Et ça tombe bien, il a gagné, c'est Laurent qui a gagné les chroniques de l'inaudible, le magnifique et collector recueil des œuvres de Walter Proof. Il doit en exister à peu près 2 exemplaires au monde. Alors, on joue encore. Écoutez bien. Qui a dit
Mondialisation n'est pas un bon mot, donc anti-mondialisation n'est pas un bon mot. J'ai pas de nom. Mais bon, parfois on est obligé provisoirement d'employer un mauvais mot en sachant qu'il n'est pas bon. Simplement, il ne faut pas l'oublier.
Ah, c'est autre chose, hein. Ah, vous avez trouvé ? Vous êtes très fort. Alors jetez-vous sur votre clavier, tapez vite l'adresse de l'inaudible http://wproof.podemus.com ou envoyez-moi un mail à wproof@gmail.com et vous gagnerez rien du tout. Ouais, ça va bien comme ça. Vous n'avez qu'à l'acheter après tout, hein, l'adresse est sur le blog, non mais des fois. Lulu lit. Et quand Lulu l'a lu, alors là, elle n'est pas larguée, Lulu. Là, Lulu a lu La vie et l'œuvre de Sainte-Beuve par Nadine Mock. Elle n'en est pas plus fière pour autant, Lulu.
Vous avez sûrement étudié Sainte-Beuve à l'école, à moins d'avoir été souvent absent. Et pourtant, je suis sûre que vous ne connaissez rien de sa vie, et à peine plus de son œuvre. En tout cas, son nom vous est peut-être tout juste familier. Vous l'avez sans doute entendu au catéchisme, à moins que vous ne soyez pas catholique. Moi non plus, je ne connaissais pas Sainte-Beuve avant de rencontrer Nadine Mock. Nadine Mock, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi cette passion pour Sainte-Beuve ?
Eh bien, je vais vous dire. Sainte-Beuve m'a toujours fascinée et depuis ma plus tendre enfance. Quand j'étais petite, j'avais une photo d'elle au-dessus de mon lit.
Une photo ? Ça existait à l'époque ?
Bah dites donc. Dis tout de suite que je suis vieille.
Non. Mais je veux dire, à l'époque de Sainte-Beuve.
Mais oui, bien sûr. Sainte-Beuve n'est pas si vieille non plus, vous savez.
Ben non, justement, je ne sais pas. À quel âge est-elle morte ?
1869, quelque chose comme ça.
Ah oui, quand même. Mais dites-moi, il y avait encore des saintes à cette époque ?
Mais enfin, je ne suis pas si vieille, dites donc.
Mais non ! Mais je veux dire, à l'époque de Sainte-Beuve.
Ah bon ? Ah ben mais oui, figurez-vous. Faut savoir qu'à l'époque où elle fréquentait le salon de Charles Naudier à l'Arsenal, Sainte-Beuve ne s'était pas encore brouillée avec Victor Hugo. Mais elle était déjà l'amie d'un autre saint, Saint-Simon.
Ah oui. Mais quel rapport ?
Ah non, aucun. Mais quelle question ?
Oui, je vois. Alors quand Rémy de Gourmont dit que Sainte-Beuve a fixé le caractère de presque tous les écrivains français et des hommes et des femmes qui ont joué un rôle intellectuel depuis la Renaissance jusqu'à la moitié du XIXe siècle, il le pense vraiment ou si c'est pour rire ?
Eh bien, c'est délicat, voyez-vous. Il est vrai que Rémy de Gourmont était un sacré rigolo, oui. Mais Sainte-Beuve aussi était une marrante.
Ah.
Avant d'être exécutée, sur ordre de Néron, elle a tout de même déclaré « C'est un grand moment dans la vie de tout homme de lettres que celui où il entre à l'Académie ». C'en est un surtout bien imposant et tout à fait décisif pour l'écrivain dont les débuts étaient loin de se diriger vers un prix si glorieux et pouvait même sembler s'en détourner, quelquefois.
Ah oui, elle ne manquait pas d'humour, effectivement. Mais dites-moi, elle buvait beaucoup, non ?
Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Oui, mais vous savez, quand on pense qu'elle était maître de conférences à l'école normale, professeur de poésie latine au Collège de France, conservateur de la bibliothèque Mazarine, membre du Sénat impérial, on se dit qu'il faut pas mal picoler quand même.
Ah, oui, bien sûr. Mais dites-moi, il paraît que Marcel Proust ne l'aimait pas beaucoup, ce pauvre Sainte-Beuve.
C'est vrai. Il disait même, ce gros con de Proust, l'œuvre de Sainte-Beuve n'est pas une œuvre profonde. Vous vous rendez compte ?
Oh, il disait ça, vraiment ?
Oui, oui, vraiment. Il disait aussi, la fameuse méthode qui consiste à ne pas séparer l'homme et l'œuvre, à considérer qu'il n'est pas indifférent pour juger l'auteur d'un livre d'avoir d'abord répondu aux questions qui paraissent les plus étrangères à son œuvre, à s'entourer de tous les renseignements possibles sur un écrivain, à collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l'ont connu, en causant avec eux s'ils vivent encore, en lisant ce qu'ils ont pu écrire sur lui s'ils sont morts, cette méthode méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices.
Ah oui, il est dedans.
Ouais.
Ah, c'est vrai finalement qu'il écrivait plutôt long, Proust.
Ouais.
Et à part ça, ça tombe quand, la Sainte-Beuve ?
Eh ben, ça tombe plutôt mal, faut bien le dire, aux environs du 18 décembre.
18 décembre ? C'est pas la Saint-Macamé, ça ?
Ben oui, c'est pour ça que ça tombe plutôt mal.
Nadine Mock, je vous remercie.
Ah bon, c'est déjà fini ?
Ben oui, vous pensiez pas qu'on allait y passer des heures, non ?
Bah, non, mais quand même. C'est Sainte-Beuve, quand même.
Bah oui, mais justement.
Ah bon ?
Bah oui. Nadine Mock, merci.
Oui, merci aussi, madame.
De la musique, bien sûr, dans l'inaudible.
Gentlemen, we can rebuild him.
Et aujourd'hui, c'est de la musique pour les yeux.
We have the capability to make the world's first bionic man.
Giovanni Sample, Bionic Man. C'est inaudible, c'est sur l'inaudible. De la musique avec des images. Ces samples sont des séquences vidéo, il les monte, il les bidouille comme des samples audio, et le résultat, en vidéo, est assez hallucinant. Je vous conseille vivement d'aller admirer ça sur son site, dont vous trouverez l'adresse sur l'inaudible http://wproof.podemus.com. Aurait la coquetterie de contacter à Calcutta un quelconque Kidam Kakoshim pour l'acoquiner à un cacique calcaire décalqué. Pas moi, en tout cas.
Pauvre petite débile.
Et ben voilà, c'est fini. Depuis le temps que je vous le dis, fallait venir plus tôt et puis c'est tout. Voilà. Bon, alors, merci aux milliards de poditeurs fidèles à l'inaudible. Merci à Bloingo, Sigmund et Edmund, La Rose et le Cornichon, Podcast Magazine qui se sont fait l'écho de nos modestes créations. Merci à tous ceux qui cherchaient Krishnamurti, Rabbi Jacob, Parcours Blogueur Célèbre, Michael Jackson quand il était petit, Jacques Chirac maniaco-dépressif, ou test pour savoir à quel super-héros je ressemble physiquement, et qui sont tombés sur l'inaudible. Ça les a surpris, j'espère qu'ils ne se sont pas fait trop mal et qu'ils reviendront. Merci à ceux qui sont venus de Lomas del Mirador en Argentine, de Casablanca au Maroc, de Dubaï à Dubaï, de Serpukhov en Russie, de Junsu en Finlande ou de Plougastel d'Aoulas en Bretagne, faire un tour sur le blog de l'Inaudible. La prochaine fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est fini, n'en jetez plus, c'est trop tard, et à bientôt, peut-être.
See a broad to get that booty ackle. Leg her down and smack 'em, yak 'em. Cold got to be. You shit.